Bien, merci d'être venu aussi nombreux pour une nouvelle rencontre, les Midis de la Recherche. L'idée, c'est un peu de célébrer ce que on fait ici en termes de recherche, de montrer les travaux qui sont publiés et également de vous permettre de questionner aussi sur la recherche qu'on fait. Et on va commencer avec l'un des nouveaux de la maison, Nicolas Beaupré, qui nous a rejoint il y a un an maintenant, et qui vient de publier au PUF cet énorme ouvrage extrêmement lourd. On n'est pas dans les Almanus hein, pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'histoire mondiale du XXe siècle, un pavé assez impressionnant de plus de 1000 pages. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer au jeu de l'entretien, je vais te poser des questions. Et puis après, je laisserai un peu de temps pour si vous avez, vous, des questions, sans nécessairement l'avoir lu. Hein, je présume que les 1000 et quelques pages, ça fait peut-être un peu beaucoup. Vous pouvez au moins questionner sur ce que vous avez pu voir. Je crois qu'il y a des exemplaires qui vont circuler. Merci d'avoir bien voulu jouer le jeu et d'ouvrir le bal,
Merci
Nicolas.
Malcolm, hein, ça fait plaisir effectivement de présenter son travail, parce qu'on dit souvent que nul n'est prophète en son pays, et c'est vrai que finalement, paradoxalement, dans ma précédente carrière, j'ai pas eu souvent l'occasion de présenter mes propres travaux, donc c'est quasiment une première, quoi, en fait.
Eh bien, commençons tout de suite avec l'ensemble et commençons déjà donc par, je dirais, le point de départ qui est le titre, hein, Histoire mondiale du XXe siècle. Est-ce que c'est une volonté de se situer dans l'héritage de Boucheron, de l'histoire mondiale de la France, ou est-ce que c'était réellement simplement parce que vous aviez envie d'avoir une vision beaucoup plus large du sujet?
Alors effectivement, bon, depuis quelques années, il y a un courant d'histoire mondiale qu'on appelle aussi parfois histoire globale. Donc nous, on a distingué l'histoire globale et l'histoire mondiale. L'histoire globale, c'est plutôt une histoire qui problématise en fait les interactions, la communication transnationale et tout. Et donc nous, on voulait avoir cet aspect dans le livre qui est en fait transversal, notamment dans la dernière partie de l'ouvrage, mais on voulait aussi offrir aux lecteurs francophones en fait un panorama le plus complet possible et si possible en un seul volume de l'histoire du monde. Donc c'est à la fois une histoire globale et une histoire du monde. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi assez facilement finalement ce titre, quoi. Et donc on se situe effectivement dans un marché, on va dire, du livre de la réflexion sur l'histoire mondiale, mais on a aussi voilà l'ambition d'offrir un ouvrage un peu aussi encyclopédique. Donc c'est aussi dans ce sens-là que peut se comprendre l'adjectif mondial.
C'est une approche qui n'est pas purement chronologique hein, à l'intérieur. Vous avez choisi des découpages internes. Mais avant qu'on ne vienne à ça, peut-être que tu veux nous expliquer ce qui est le XXe siècle pour toi, puisque donc, traditionnellement, à la suite avec Hobsbawm, on parle souvent du court XXe siècle, en partant de 1718, en allant jusqu'en 90, 91, à voir. Et là, en fait, on n'est pas du tout sur la chronologie.
Alors, lorsqu'on a lancé le projet il y a 2 ans, en fait, hein, à peu près, on avait effectivement l'idée déjà de rompre avec l'histoire d'un court XXe siècle, hein, qui donc aurait commencé en 14 ou en 17 et se serait terminé en 1989-91, on va dire, lors de la séquence la chute du communisme. Hein. On pensait que, voilà, 30 ans après, il n'était plus possible d'écrire l'histoire d'un court XXe siècle. En même temps, on a décidé, quand on a contacté nos auteurs, de ne pas leur imposer une chronologie. Donc, en fait, on a laissé, parce que, comme tu as dit, hormis pour la première partie qui, elle, est un découpage chronologique, où là, on avait quand même plus ou moins notre idée de la manière dont on pouvait lire le siècle, en gros, du tournant de 1904-1905, sur lequel on reviendra peut-être, jusqu'à 2001, hein, jusqu'à l'attentat du World Trade Center. Mais après, pour les chapitres thématiques à l'intérieur du livre, on a laissé les auteurs libres de choisir leur propre chronologie. Et en fait, tous ont choisi un XXe siècle long. quasiment sans exception. Hein, et du coup, ça nous a semblé dire quelque chose finalement de cette nouvelle manière aussi de penser le siècle. Hein, un siècle qui apparaît, 20 ans après 2001, plus sombre qu'il ne pouvait apparaître en 1989-91, où on avait effectivement peut-être l'impression, comme il a été écrit, d'une fin de l'histoire, d'une page qui se tournait et d'un possible avenir meilleur que les deux guerres mondiales suivies d'une guerre froide hein, qui avait effectivement pesé sur cette histoire du XXe siècle. Mais bon, quand on le regarde a posteriori, finalement, cette histoire de violence qui est quand même centrale dans ce siècle, hein, elle s'est poursuivie après 1989-91. Il n'y a qu'à penser en Europe à la Yougoslavie, mais aussi le génocide des Tutsis du Rwanda. Dès 1994, en fait, la dimension tragique en fait, du XXe siècle, elle se poursuit, quoi. Et elle en donne. Enfin, c'est une des clés de lecture. C'est pas la seule, hein, mais la violence, effectivement, est une des clés de lecture du XXe siècle.
Alors en ça, donc, si la fin est la fin du XXe siècle, hein, comme jusqu'en 2001, commencer en effet en 1905, ce qui est relativement, je dirais, nouveau comme découpage et comme décision. Mon fils est en troisième, et quand je lui ai parlé donc, de la guerre du Japon, etc., comme le prix, il n'en avait jamais entendu parler.
Alors effectivement, pourquoi 1904-1905? Deux raisons principales. Déjà sur le plan, on va dire, géopolitique, hein, c'est effectivement la défaite de la Russie contre un adversaire perçu comme beaucoup plus faible au départ. Hein, ça évoque peut-être ça aussi l'actualité, une actualité contemporaine. Hein, donc cette défaite d'un des grands empires du 19e siècle en Asie. Et puis c'est aussi les années, on va dire, de 1900 jusqu'à 1914, de 1900 jusqu'à 1914, c'est aussi une ère de révolution. Hein, on parle souvent de 1917 comme la grande révolution, effectivement, qui change le cours du XXe siècle, ce qui n'est pas évidemment complètement faux, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a quand même toute une série de révolutions, hein, que ce soit en Perse, que ce soit dans l'Empire ottoman, que ce soit en Chine, que ce soit au Mexique, hein, qui émaillent en fait toute l'histoire des années 1900 jusqu'aux années 1910-1911, quoi. Donc, pour cette raison, il nous a paru aussi intéressant de pas faire commencer le siècle en 14 ou en 17, mais de revenir sur ces années qui sont, quand on les regarde depuis aujourd'hui, finalement aussi cruciales peut-être que les années de la Première Guerre mondiale.
Alors, rentrons un peu dans le livre lui-même. Donc, il est structuré d'une manière un peu surprenante, nouvelle, en cinq parties, donc avec une vision large chronologique pour commencer. Des moments clés choisis qui, là, pour le coup, ne sont pas tellement surprenants, c'est les moments auxquels on s'attend. Puis après, donc, trois thèmes que vous développez. Le thème des espaces, qui permet de couvrir l'espace géographique global. Les lieux, par rapport donc aux espaces, intéressant jeu d'échelle
Oui.
entre les deux. Et le troisième, donc, dernière partie, sur les enjeux. Qu'est-ce qui vous a mené à choisir espace, lieu, enjeu plutôt que d'autres découpages.
Chaque choix, finalement, laisse toujours aussi des aspects dans des angles morts, en fait. Hein. Mais bon, là, on voulait quand même proposer au lecteur une lecture chronologique du siècle. Hein. Donc, on a confié alors aussi le livre. Hein, et donc, il n'est pas écrit par nous deux seulement. Hein, c'est un ouvrage dirigé. Donc, il y a une cinquantaine de co-auteurs et de co-autrices. Hein. Donc, on a confié. Les trois premiers chapitres donc, qui forment un récit en fait hein, donc des années 1904 jusqu'à 2001 à trois profs de classe prépa en fait, hein, qui ont donc l'habitude hein, de proposer des grandes synthèses à leurs élèves et donc on a découpé le siècle. Là, c'est nous qui avons imposé le découpage hein. Donc on commence en 1904-1905 jusqu'en 1945. Donc là, c'est un découpage assez classique. Puis ensuite de 1945 jusqu'à 1979 hein, donc on n'a pas pris l'année 89 justement comme moment charnière parce qu'on pense qu'à partir des années 4 du début des années 80 il se passe quelque chose hein, qui est de l'ordre de ce que au grand continent ils appellent un interreg, c'est-à-dire un moment de transition entre justement le XXe siècle et ce qui commence à apparaître comme étant pleinement le XXIe siècle, hein, que ce soit l'attentat de la Mecque en 79, la révolution iranienne, dont évidemment l'actualité nous rappelle l'importance aujourd'hui, et puis aussi dans les démocraties occidentales, l'émergence de courants néoconservateurs et néolibéraux, hein, qui là aussi, hein, continuent de peser sur nos vies jusqu'à aujourd'hui, et puis donc jusqu'en 2001. Donc on a fait un découpage en trois parties chronologiques. Et puis ensuite, effectivement, on a proposé une approche proche qu'on pourra qualifier de géohistorique, en fait, hein, en divisant le monde par sous-continents, hein, et en demandant à chaque fois aux auteurs et aux autrices de dégager les grandes dynamiques internes à ces sous-continents, mais aussi la manière dont ils s'articulent avec les grandes dynamiques mondiales, donc ce qui permet d'avoir des chapitres sur l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Europe, évidemment l'Asie du Sud-Est, par exemple. Et enfin, la dernière grande partie, c'est sur les grands enjeux, donc là, qui sont, là, pour le coup, des grandes synthèses mondiales. Donc, certaines sont attendues, hein, évidemment, l'économie, la démographie et tout, la culture, mais d'autres correspondent véritablement à des enjeux qui émergent au XXe siècle, comme celui du genre ou de l'environnement, par exemple. Et puis, on a entrecoupé ces trois grandes parties par, effectivement, une série de choix de 11 dates et de 11 lieux qui nous ont paru, c'est aussi pour faciliter la lecture, en fait, hein, parce que c'est quand même des gros chapitres, il faut bien le dire, hein, qui font à chaque fois voilà, au moins une cinquantaine de pages. Hein, donc, et là, on a des chapitres beaucoup plus courts, hein, de 4-5 pages, donc avec 11 dates, dont une par décennie, qu'on a choisi comme étant des dates emblématiques, des moments charnières du XXe siècle, qui, quand on les lit seuls, hein, nous aident à comprendre l'ensemble du siècle, et puis des 11 lieux aussi emblématiques, hein, de ce qui a fait l'histoire du XXe siècle, comme par exemple la Sibérie, l'Amazonie, mais aussi bien sûr Berlin, Auschwitz ou New York. Par exemple. Voilà.
D'accord. Alors, évidemment, pour un Anglais, le retentissement de 79 et l'élection de Thatcher,
ouais, bien sûr, est très important.
A son sens pour les catastrophes qui vont suivre. pour suivre les catastrophes qui avaient précédé. Mais j'étais très surpris, en fin de compte, par le dernier chapitre, Enjeux, parce qu'en fait, c'est un regard, je dirais, très, très ancré dans une historiographie d'aujourd'hui, très influencé par ce qui semble être pour nous les enjeux du XXe siècle, c'est-à-dire en fait ce que nous, on pourrait tirer, voir, comprendre du XXe siècle. Donc, par exemple, il y a en effet la mondialisation, il y a l'environnement, il y a la place des femmes, etc. Il y a des choses qui sont absentes. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup surpris dans l'absence et qui surprendront les lecteurs. Pas juste quelqu'un de pénible comme moi, mais, et ça rigole. Mais par exemple, notamment, le fascisme n'y est pas, le nazisme n'y est pas, le communisme n'y est pas. Alors, il est caché en sous-éléments, mais ils n'y sont pas. Toutes les grandes idées, idéologies, mouvements qui sont peut-être, je dirais, marquants du XXe siècle, mais qui sont plus marquants aujourd'hui, ne sont pas présents.
Alors, ils sont présents quand même, puisque les deux, par exemple, les deux personnages qui sont les plus cités quand on regarde l'index, c'est Staline et Hitler. Quand même. Donc ils ne sont pas, évidemment pas absents. Non, on n'a choisi de pas les traiter à part, on les a choisis justement pour pas non plus. Le risque, c'était d'avoir aussi une vision un peu trop européano-centrée, même si évidemment ces grandes idéologies, elles ont aussi une vocation, elles avaient une vocation mondiale, mais elles sont traitées notamment dans le chapitre sur la politique qu'on a confié à Nicolas Patin, qui est un spécialiste du nazisme précisément. Donc on a un chapitre sur la politique et le politique au XXe siècle, où il confronte directement cette question des grandes idéologies. Et puis aussi dans le chapitre sur l'impérialisme, hein, puisque la plupart des idéologies que tu as évoquées ont une dimension impérialiste prononcée. Et le XXe siècle, c'est un siècle où précisément l'impérialisme se réinvente. Hein, et on a l'impression qu'il disparaît avec la Première Guerre mondiale, avec l'effondrement des grands empires dynastiques qui ont fait le XIXe siècle, d'une certaine manière, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, les empires coloniaux britanniques et français, l'Empire ottoman, hein, qui effectivement, Pour certains, c'est fondé dès 18, pour d'autres, c'est frite jusque à la décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'impérialisme se réinvente, il est réinventé par les nazis, il est réinventé par Staline, il est réinventé par les régimes politiques que tu as évoqués. Donc il est quand même présent, hein, mais et puis c'est aussi très présent dans le chapitre sur la violence, évidemment. Mais on a préféré dégager des enjeux qui soient plus globaux, hein, que trop pointus et trop précis, on va dire. C'est pour ça qu'on a délibérément choisi de pas les traiter dans des chapitres à part, en fait. Parce qu'ils font partie de l'histoire du monde.
Deuxième question, difficile de ma part.
Elle n'est pas difficile. Ça.
Ne m'encourage pas. voici une question difficile. Vous traitez l'ensemble des zones géographiques, l'ensemble de la chronologie, ça s'appelle en effet une histoire mondiale. Puis j'ouvre et je regarde le nom des auteurs et je tourne les pages et je me dis, il manque un mot, c'est l'histoire française mondiale du XXe siècle.
Et ben là aussi, c'est un double choix. Alors déjà un choix pratique, hein, parce qu'effectivement. Quand on coordonne un ouvrage comme ça avec 50 auteurs, déjà, il faut récupérer les textes. Hein. Si en plus vous faites appel à des stars des grandes universités américaines ou autres, ça rend les choses encore plus compliquées. Puis après, il faut les traduire. Donc je pense que si on avait fait appel, donc il y avait cet aspect pratique, si on avait fait appel à des collègues étrangers, on y avait pensé au début. Hein. On avait, dans notre première liste de noms, il y avait Frédéric Cooper, par exemple, qui est un des grands. Historiens des empires coloniaux et de la décolonisation et tout. On en a contacté quelques-uns. Bon, déjà, on a essuyé quelques refus. Puis surtout, on s'est dit qu'on n'arrivera pas à le faire dans un délai raisonnable. Et donc après, ceci nourrissant cela, on s'est dit pourquoi pas finalement faire appel uniquement à des collègues français, puisque c'est effectivement, comme tu l'as dit, hein, une histoire française mondiale du XXe siècle, une histoire mondiale française du XXe siècle. C'est aussi un moyen de rendre hommage finalement au dynamisme de la recherche française francophone sur l'histoire en histoire contemporaine, hein, et de montrer que contrairement à une idée reçue, hein, les historiens français ne sont pas claquemurés sur leur hexagone, ne sont pas uniquement des collègues qui parlent le français et baragouineraient un peu d'anglais, hein, mais travaillent sur toutes les aires géographiques et en plus dans des conditions parfois difficiles. Hein, on sait que les moyens de recherche des universités permettent pas d'enchaîner les voyages de recherche dans les archives à Bogota ou à Pékin ou à Moscou. Maintenant c'est difficile, hein, mais voilà, donc il y a une vraie recherche en histoire contemporaine qui est présente sur toutes les aires culturelles et finalement on n'a pas eu trop de mal, hein, à trouver des auteurs spécialistes qui de l'Inde, qui de l'Amérique latine, qui de l'Asie du Sud-Est pour fournir ces chapitres, et d'autres auteurs qui dans les chapitres de synthèse de la troisième partie, hein, ont eu cette capacité, hein, de brasser des bibliographies en espagnol, en italien, voire dans des langues plus lointaines, pour proposer des grandes synthèses. Donc c'est effectivement une histoire vue de la France, hein, mais ce qui était peut-être un choix pratique au départ est devenu progressivement un choix assumé aujourd'hui.
Donc aucune inquiétude sur le colonialisme français écrit.
Non, il est écrit, il y a des chapitres qui le traitent. Mais là, c'est pareil, on a essayé aussi d'insister auprès de nos auteurs, hein, d'être conscient des possibles biais franco-français, mais pas seulement franco-français, aussi européano-centré, en fait, hein, pour proposer une histoire qu'on a voulu un peu déseuropéaniser du XXe siècle. Quoi. Parce que les grandes synthèses qui existaient auparavant, hein, faisaient souvent la part belle aussi quand même à une vision très occidentalo-centrée. Hein, je pense par exemple au livre classique de Milza Bernstein, de Anthony Rollet qui existait avant. On arrive aussi, il faut le dire, hein, dans un... Finalement, paradoxalement, il n'y avait pas de grande synthèse sur l'histoire du monde au XXe siècle récente. Il y en a plusieurs sur le XIXe siècle, hein, y compris d'ailleurs qui ont été traduits de l'allemand, de l'anglais et tout. Mais il n'y avait pas sur l'histoire du XXe, et donc on avait aussi identifié un segment quoi, possible pour faire une proposition. Quoi. Après, voilà, elle a, comme toutes les propositions, elle a ses qualités et elle a ses faiblesses. Quoi. Moi aussi, j'ai identifié d'autres manques, hein, mais bien sûr, je ne les dirai pas. on en a débattu, il y en a, on a demandé à des auteurs. Hein. Bah, par exemple, si, je vais dire un, quoi. Là, j'étais présenté à Blois et le thème, c'était la mer et les océans, et il n'y en a rien sur la mer et les océans. On en est bien conscient, on a contacté des auteurs et là, on a aussi voilà, essuyé des refus. Et à force, bon, après, les délais sont trop courts. Et donc, voilà, c'est comme ça, quand il y aura une édition augmentée, on aura toujours des chapitres à rajouter. Il y en a d'autres.
Donc, comme pour l'histoire mondiale de Boucheron, l'histoire mondiale de la France de Boucheron, la version en livre de poche sera plus grande.
Voilà, sans doute, ouais. Bah, comme c'est la tradition chez beaucoup d'éditeurs français, il faut bien vendre deux fois le livre. Donc.
Alors, l'introduction, relativement courte, donc, s'appelle « Le siècle des paradoxes ouais. ». J'ai à vous soumettre, mon cher, un paradoxe supplémentaire sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes. Le 20e siècle était un siècle d'images, de visuels. L'image est reproduite d'autant plus au cours du 20e siècle de plein de façons différentes. Il n'y a pas d'image.
Non, il n'y a pas d'image dans le livre. Moi, j'ai déjà fait des livres d'images. Par contre, l'image, elle est au cœur du chapitre sur la culture, puisque la ligne directrice, c'est justement, elle a pris comme ligne directrice le cinéma. Qui concurrence l'imprimé et qui joue effectivement un rôle essentiel jusqu'à Internet. Quoi. Donc elle est présente en creux finalement. Mais bon, il y a quand même une image de couverture qu'on a choisie avec soin hein, et qui nous a semblé représentative aussi de ce siècle. Donc c'est une photographie en fait de l'indépendance de l'Angola donc, qui a lieu le 11 novembre 1975. Donc, comme quoi il n'y a pas que des 11 novembre. Européen et donc la photo elle date du 12 du lendemain, c'est l'arrivée de réfugiés mozambicains qui étaient angolais qui étaient auparavant mozambicains qui arrivent là et qui fêtent hein, cette indépendance qui est aussi malheureusement hein, quelques semaines plus tard le début d'une très tragique guerre civile hein, qui va faire plusieurs dizaines de milliers de morts hein, et donc c'est une photo qui illustre hein, ce paradoxe, une histoire mondialisée où effectivement les gens ordinaires participent au cours de l'histoire, hein, démontrent leur agency, mais c'est aussi hein, le paradoxe entre finalement la joie d'une indépendance et le tragique d'une future guerre civile qui commence à prendre.
Alors, j'ai noté qu'il n'y avait pas de chapitre sur les bibliothèques, donc vous serez prévenus, mais peut-être plus surprenant. Pas de conclusion.
Non.
Et en fait, c'est un choix fort ou vous n'avez pas voulu mouiller votre chemise collective ?
Non, c'est pareil. Alors pour l'intro, ça me ramène à l'introduction. Hein, donc, on a choisi de faire une introduction effectivement assez courte, hein, assez brève, hein, qui résume les quelques grandes idées générales qui courent le XXe siècle, et pas une introduction historiographique qui aurait été, à notre humble avis, assez fastidieuse et aussi compliquée à mettre en place. Donc finalement, l'introduction fait aussi office de conclusion. Et comme ça, peut-être aussi, il y aura pour l'édition augmentée la possibilité de rajouter un chapitre de fin. On avait pensé, comme conclusion, on avait pensé faire un entretien avec un historien, une historienne de renom. Mais ceux qu'on a contactés, voilà, le problème, c'est qu'on a... Voilà, il fallait qu'ils lisent 1000 pages, quoi. Donc, et en plus, les 1000 pages, encore en mois de juillet, on ne les avait pas. Donc, parce que les derniers chapitres retardataires nous sont arrivés 6 mois après les délais, donc en plein mois de juillet, alors que le livre est paru au mois de septembre. Donc, il était déjà en composition, quoi. Donc, quand les derniers chapitres sont arrivés, donc, on n'a pas pu... On avait déjà sollicité des gens, mais bon, on n'a même pas pu leur donner le...
Ils vont bien la deuxième édition.
Ah, j'espère qu'il y en aura une.
On voit bien que c'est un historien de l'édition aussi. Alors, Dernière question de ma part avant d'ouvrir. C'est une question je dirais, de rentrer dans ta tête de fabricant de chapitres, de mots et de phrases, et pas simplement donc de coordinateur de l'ensemble, puisque tu écris un chapitre toi-même sur l'Europe du XXe siècle. L'Europe du XXe siècle traitée en combien de pages? Très peu.
Oui,
Forcément, évidemment, c'est le jeu, hein,
c'est des
sur 40
chapitres
pages.
qui sont entre 75 000 et 100 000 signes, mais moi je vais être à 100 000 quand même.
Et comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Quelle a été la difficulté principale pour toi de condenser ce qui est quand même un travail énorme
Voilà. Alors
en
déjà, ce
si
n'est pas une
peu?
difficulté, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé écrire en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir. Des fois, on a du mal à écrire. Des fois, on rame et tout quoi. Et là, en fait, voilà, c'est une fois que j'ai eu l'idée, en fait, une fois que j'ai eu l'idée, ça a été assez facile à écrire pour moi. Aussi, il faut bien le dire, parce que j'ai enseigné quand même pendant 3 ans l'histoire de l'Europe à Clermont-Ferrand. Alors, j'avais quand même du coup, voilà, un background, voilà, à la fois factuel, les exemples à fournir. Donc, j'ai pas rencontré de difficultés majeures. Et voilà, j'ai organisé mon chapitre en quatre sur les temporalités. En fait, c'est aussi une question qui me travaille en tant qu'historien. Donc, la question du rapport au temps, le découpage, comment finalement rendre intelligible un découpage chronologique qui sinon apparaît totalement artificiel et plaqué sur la réalité. Donc, j'ai vu le premier XXe siècle, donc en gros les années 1900 jusqu'en 1923, comme un moment où un certain passé finalement s'effondre. J'appelais ça l'effondrement du passé. Ensuite, une deuxième séquence de 1923 jusqu'à 1945, que j'ai appelée l'affrontement des avenirs, qui justement revient aussi dans la lignée du livre de Marc Mazower, Le continent des ténèbres, sur l'affrontement des trois grands modèle politique, le communisme, le communisme, les fascismes, et puis la démocratie libérale, hein, qui chacune propose une vision de l'avenir différente, vision de l'avenir qui nous manque beaucoup aujourd'hui, hein, de la part de nos dirigeants politiques, qui sont trop souvent tournés vers le passé plutôt que de nous proposer des visions d'avenir. Là, au moins, il y en avait. Alors, elles se sont affrontées avec une très grande violence, évidemment. Et puis, le troisième temps, je l'ai appelé le présent, une sorte de présent glaciaire qui s'est abattu sur l'Europe, hein, qui est celui de la guerre froide, où l'Europe, finalement, pendant si longtemps, depuis au moins le XVIe siècle, hein, avait, d'une certaine manière, dicté sa marche au monde, est devenue un enjeu. Hein. Avant, elle était un espace qui organisait le monde, et là, elle est devenue un enjeu de l'histoire du monde. Donc au moins jusqu'en 91, 89-91, et puis le troisième temps qui s'ouvre en 89-91, qui va finalement jusqu'à aujourd'hui, c'est un moment où l'Europe se cherche, hein, elle essaye de retrouver une maîtrise de ce passé, de ce futur et de ce présent. Alors est-ce qu'elle y arrive? Ça, c'est encore à discuter, quoi. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est plus difficile que ce qu'on voudrait croire, hein, déjà dès les années 90, hein, avec le conflit dans l'ex-Yougoslavie, où les Européens n'ont pas été à même eux-mêmes de régler les problèmes de leur propre continent, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai organisé mon chapitre. Donc une fois que j'avais le fil, après, voilà. Effectivement, bon, après, il était trop long, quoi. Donc il a fallu couper, quoi. Mais bon, ça, voilà, on fait le sacrifice, quoi.